Nous continuons notre étude suivie sur Néhémie. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Et nous abordons le chapitre 8 ce matin, qui concerne, en tout cas le mot d'ordre appliqué à ce chapitre, c'est l'obéissance. Et pour introduire ce message, j'aimerais vous parler d'un pays en particulier, le pays le plus persécuté au monde. Clique voir dessus parce que ça ne marche pas. Voilà. La Corée du Nord. La Corée du Nord est au top numéro 1 sur l'index de persécution de l'association Portes Ouvertes. Vous connaissez sûrement le président, en tout cas celui qui était au pouvoir en ce moment, Kim Jong-un. Depuis 2 ans qu'il est arrivé, on pensait qu'il y aurait une certaine ouverture de sa part, mais il n'en est rien. Il a au contraire refermé encore plus le pays, et même il a une certaine attitude de défi vis-à-vis de la communauté internationale. Le voilà, j'ai une photo de lui, le voilà. Kim Jong-un, 34 ans. Ce pays du nord de la Corée du Nord, est dirigé donc d'une main de fer sous l'égide de deux idéologies, deux idées principales. La première, c'est que l'homme se suffit à lui-même. L'être humain se suffit à lui-même. Pas de spiritualité, pas de Dieu, pas de force au-dessus des hommes. L'homme est seul sur terre et il est totalement maître de son destin. Ça, c'est la première idéologie qui est enseignée en Corée du Nord. Et la deuxième idéologie, c'est évidemment le culte de la personnalité du leader suprême. L'homme doit tout au leader suprême qui est le président, le fameux Kim Jong-un. Un véritable culte de la personnalité. Et ça dure depuis 4 générations. Ça fait 4 générations que les présidents se succèdent et que cette dictature est en place avec un culte, un vrai culte, on pourrait dire au dieu Kim Jong-un. Ce fameux Kim Jong-un, il estime que le christianisme, c'est une pensée forcément occidentale, qui est nuisible pour son pays, et donc qui doit être totalement éradiquée et interdite. C'est étonnant parce que dans la famille, il y a certaines racines protestantes. Je pense que c'est le père, son père en tout cas, qui vient d'une famille qui est presbytérienne, protestante. Et donc, il a été enseigné toute son adolescence dans la foi chrétienne, mais à un moment, il a décidé d'être athée. Ça dure depuis plus de 60 ans, cette persécution en Corée du Nord. Avant 1945, il y avait environ 500 000 chrétiens dans ce pays. Et depuis 1945, en tout cas, visiblement, il n'y en a plus du tout. La religion chrétienne est totalement, le christianisme est totalement éradiqué de ce pays. Ceux qui arrivent à garder la foi le vivent secrètement. Et ceux qui n'arrivent pas à le vivre secrètement sont immédiatement arrêtés, emmenés dans des camps de concentration, voire exécutés. Et donc on estime qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'entre eux qui sont actuellement dans des camps de concentration. Et le système d'endoctrinement en Corée du Nord actuel encourage même à la délation. On parlera un peu plus tard, c'est-à-dire que l'entourage familial peut dénoncer quelqu'un de sa famille, des voisins, etc. Donc c'est très 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 difficile de vivre sa foi en Corée du Nord. Et c'est pourquoi l'église nord-coréenne est totalement souterraine. On ne la voit pas. Il y a une pression indescriptible qui est sur les épaules de ces chrétiens. Et les enfants même sont formés pour dénoncer leurs parents lorsqu'ils ont un enseignement à l'école. Alors on peut se poser la question, comment ça marche? Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore, il y ait ce système de dictature qui existe et qui fonctionne encore? On a eu Hitler avec l'Allemagne, on a eu Staline avec l'URSS, mais on pensait que c'était fini tout ça. Non, ça perdure encore et c'est actif en Corée du Nord. En fait, pour comprendre ce système de régime, il faut comprendre qu'il y a quatre éléments essentiels pour que ça fonctionne. Il y a quatre éléments qui constituent une bonne dictature, on va dire. Le premier, c'est l'idéologie, on l'a vu. Il faut un personnage, il faut quelqu'un à qui vouer toute sa vie, son travail, ses loisirs, etc. Tout est consacré à cette personne de Kim Jong-un, chef suprême, reconnu par tous, respecté par tous. Et ça, c'est très très présent. Et puis, forcément, qui dit idéologie dit aussi domination. Donc, dans toutes les couches de la société, que ce soit les médias, l'enseignement, la culture, tous les échelons aussi de l'existence, que ce soit dans la famille, dans le quartier, le travail, les loisirs, tout est encadré. Personne ne choisit vraiment ce qu'il a envie de faire. Tout est proposé, tout est organisé pour que telle personne suive telle étude dans telle école et ensuite elle ait tel métier dans telle entreprise, etc. Leur vie entière est entièrement cadrée et chacun suit ce mouvement-là parce qu'ils ont une reconnaissance envers le chef suprême. Ça nécessite donc une soumission totale. Un respect de cette fameuse idéologie, donc un respect du chef suprême, de suivre ses principes, et non seulement de les suivre, mais aussi d'être enthousiaste, et d'être heureux, de montrer qu'on est heureux, comblé, qu'on n'a besoin de rien d'autre. Tout est enseigné dans les petites écoles, et donc ça donne des adultes qui montrent en tout cas au monde entier qu'ils sont heureux dans ce système-là. Et puis, ce dont je parlais après aussi, c'est chaque Coréen est encouragé à la suspicion de l'autre. Voilà, il faut être meilleur que les autres, donc il faut dénoncer celui qui est moins bon. Et donc, dans ce système-là, évidemment, lorsqu'on est chrétien, les gens encouragent à divulguer le nom de telle ou telle personne qui paraît bizarre dans ses actions, dans ce qu'il fait. Et en échange, bien sûr, ils reçoivent des privilèges. On reçoit des biens, on reçoit des promotions, on reçoit différentes choses, une reconnaissance, etc. Et tout ça, c'est un système qui fonctionne pour lui-même. Donc personne ne lève la tête plus haut que l'autre, parce que voilà, sinon il risque d'être dénoncé, et puis il n'a pas la promotion qui lui était promise, quoi. Et puis tous les systèmes, disons, extérieurs sont forcément interdits d'entrer dans ce pays. Pas d'ordinateur, pas de téléphone. En tout cas, c'est très très réglementé et restreint. L'accès à Internet n'existe pas, ou alors que pour certaines entreprises, est très contrôlé. Au niveau du travail, on travaille 6 jours par semaine, mais le 7e, c'est du bénévolat, donc il y a du travail permanent, presque pas de loisirs. Et puis voilà, on ne choisit pas son métier ni son travail, tout est proposé, coordonné, on a une direction dans laquelle on doit aller, et tout le monde fait pareil. On le voit sur cette photo. Il y a donc sur une des collines à côté de Pyongyang, la capitale, la statue des deux leaders. Celui qui lève la main, c'est l'actuel président, Kim Jong-un, et son père juste à côté. Et on voit ces gens qui sont prosternés devant ces deux statues. Cette photo me marque beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression de revivre l'épisode de Nebuchadnezzar. Et de Daniel, qui refusait de se prosterner devant la statue. C'est incroyable que ça existe encore aujourd'hui. Cette photo date de l'année dernière, je pense. Mais ce n'est pas l'histoire de Nebuchadnezzar que je voulais vous parler aujourd'hui, mais l'histoire de Néhémie. L'idée principale qu'on avait, c'était comment Néhémie peut nous aider à construire une vision pour l'Église. Et plusieurs raisons sont venues au fur et à mesure des chapitres. On a eu plusieurs idées, plusieurs choses qui sont venues au fur et à mesure des chapitres de Néhémie. On a vu d'abord qu'il fallait recevoir cette vision, l'accueillir, la définir, la communiquer. On a vu qu'il y avait des résistances à l'application de cette vision et la nécessité de persévérer en ajustant cette vision régulièrement. Ce sont des bons principes qui doivent être appliqués par tout le peuple, par la communauté entière. Et c'est ce qu'on voit, c'est pour ça que je voulais prendre un petit peu cet exemple de la Corée du Nord. Ce peuple est impressionnant d'unanimité. Ils sont ensemble. Si on veut accomplir une vision, il faut être ensemble. Sinon, Évidemment, nous sommes divisés. Un verset qui parle de la vision dans le livre des Proverbes, que vous connaissez peut-être, dit ceci. J'ai pris deux versions différentes pour que vous puissiez bien comparer. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Heureux celui qui garde l'enseignement. Et lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. Alors la question de ce matin est la suivante. Quels sont les critères d'un peuple qui a une vision ? Quels sont les critères d'un peuple qui a une vision ? Alors, je ne veux pas faire trop la comparaison entre le peuple de Kim Jong-un et le peuple de Néhémie, parce qu'évidemment, ça s'arrêterait à un certain moment. Mais ce que j'ai remarqué, en tout cas dans ce chapitre 8, et on va le lire ensemble tout de suite après, c'est que le critère d'un peuple qui a une vision, c'est un peuple qui est uni, un peuple qui comprend, un peuple qui se repent et un peuple qui obéit. Voilà les quatre points que je voudrais partager avec vous ce matin. Donc nous lisons Néhémie chapitre 8, du premier verset jusqu'au verset 12. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse, donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre, depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matitia, Shema, Anaya, Uri, Ilkiya et Maaseya, et à sa gauche Pedaya, Michaël, Malkiya, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen !» en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué, Bani, Sherebia, Yamin, Akoub, Shabetai, Odia, Maaseya, Kelitia, Azaria, Yozabad, Anan, Pelaya et les autres lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tous « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel notre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu, ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Ce qui fait la force d'un peuple, c'est son unité. Un peuple divisé est affaibli, on le sait. Lorsqu'on ne peut pas décider ensemble, on perd du temps. On passe notre temps à nous mettre d'accord. Alors nous avons besoin d'unité. Un peuple qui décide ensemble, qui met tout le monde d'accord, qui se respecte, c'est un peuple qui avance. Vous connaissez peut-être les formations militaires de l'armée romaine en particulier. Il y a une formation qui est dite en tortue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image avec les boucliers devant, au-dessus, sur les côtés. Ceux qui ont lu Astérix connaissent un petit peu. Et même sous une pluie de projectiles, de flèches ou de pierres, etc., les soldats sont protégés et peuvent continuer à avancer. Mais l'inconvénient de ce système, c'est qu'ils étaient obligés d'être épaule contre épaule, très serrés les uns à côté des autres. Et si l'un d'entre eux avait l'idée d'aller à gauche alors que tout le monde allait à droite, c'est fini, la tortue était disloquée. Et là, c'était la porte ouverte à toutes les flèches et ça pouvait tuer le groupe en entier. Dans ce groupe, dans cette formation, lorsqu'il avance, lorsque ce groupe avance en bon ordre, épaule contre épaule, tout le monde serré les uns contre les autres, les attaques n'ont pas beaucoup d'effet sur lui. Dans ce texte, nous voyons à quel point le peuple était ensemble. Dans chaque mouvement, dès le début du texte, on voit comme un seul homme, chaque mouvement, se lever, se prosterner, dire quelque chose. On voit tout le peuple qui était attentif. Tous se lèvent, tout le peuple s'écrie. Tous se prosternent. Dans chaque mouvement, chaque attitude, ils sont tous ensemble. Comment cela se fait-il? À qui obéissent-ils? À Néhémie? À Esdras qui est devant eux? À un régime totalitaire comme celui de Kim Jong-un? À une idéologie? Est-ce qu'ils sont tous drogués? Est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont hypnotisés? Ou alors sous la contrainte? Ils savent que s'ils ne le font pas, ils vont mourir? Qu'est-ce qui les force à l'obéissance? Le texte est très clair. Le peuple est volontaire. Le peuple demande lui-même à Esdras de lire dans le livre de la loi. Il demande d'ouvrir la Bible. Le peuple sait que nous sommes le premier jour du septième mois. Qu'est-ce qui se passe le premier jour du septième mois avec le peuple d'Israël? Quelqu'un connaît un petit peu qu'est-ce qui se passe le premier jour du septième mois? Rosh Hashanah! Vous connaissez Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, la fête des trompettes ou la fête des clameurs. Vous connaissez la fête des trompettes? Non? Le premier jour de l'an juif. C'est le début de l'année. Alors, je vais un petit peu d'histoire. Allons-y, je vais vous apprendre quelque chose. Les fêtes juives. Rosh Hashanah, fête des clameurs ou fête des trompettes. C'est la commémoration du jugement de Dieu qui viendra au son de la trompette. Donc on sonne la trompette tous les premiers jours de l'an juif. Rosh Hashanah. Ensuite, on a le Yom Kippour. Vous connaissez Yom Kippour? La fête du grand pardon. Donc c'est le fameux jour des expiations où on demande ensemble pardon pour nos fautes. Ensuite, Sukkot, la fête des cabanes, commémoration de la sortie d'Égypte. Sukkot. Shema Torah, c'est la fête du cycle de lecture de la Torah. Ça, on la connaît un peu moins, cette fête-là. C'est la commémoration du retour à la parole. Et puis, on finit par Hanouka, la fête des Lumières. Commémoration, justement, de la reconstruction du Temple de Jérusalem. Si vous connaissez, peut-être vous avez des amis juifs, peut-être vous connaissez certaines personnes qui sont juives, et vous savez à quel point ces fêtes-là sont extrêmement importantes pour eux. Pourquoi? On le remarque, hein, les Juifs, quel que soit le pays où ils vivent, quelle que soit la ville où ils habitent, ils veulent toujours que ces fêtes soient présentes. Il y a une histoire de culture, c'est vrai, mais il y a surtout une histoire d'identité. Lorsqu'ils se rassemblent entre eux pour participer à ces fêtes, ils sont comme un seul homme. Ils ont une seule identité. Ils savent qui ils sont. Ils savent à qui ils appartiennent. C'est un moyen même pour eux de proclamer au monde entier qui ils sont. Quelqu'un qui pratique la fête de Rosh Hashanah, c'est un juif. On le sait. Ils sont un même peuple. C'est ce qui les rapproche, c'est ce qui fait l'effet se sentir vivant. Ils vivent ces fêtes, ça sort des tripes, c'est quelque chose qui fait partie d'eux-mêmes. Nous aussi, nous sommes attachés à notre culture. On n'a pas ces fêtes-là. Mais on a quelques-unes quand même. On a des choses qui nous rapprochent. On a des choses qui nous font nous sentir quelqu'un, en tout cas faire partie d'une certaine identité. Quelles sont nos traditions dans l'Église ? Noël en fait partie. Est-ce que ça compte pour nous au point que, avec Noël, nous nous sentons quelqu'un ? Nous sentons faire partie d'un peuple. Nous sentons que nous avons une identité. C'est très fort dans la parole, mais est-ce que c'est fort pour nous ? Est-ce que c'est juste une fête pourvu qu'elle passe vite ? Ou est-ce que c'est vraiment un moment où on se sent appartenir au peuple de Dieu ? Parce que nous fêtons la naissance de notre Sauveur. À tous, notre Sauveur, c'est lui qui nous rapproche. C'est lui qui nous fait nous sentir vivants. C'est lui qui fait en sorte que nous sommes un peuple, uni. Nous fêtons Noël ensemble parce que nous sommes d'accord de fêter Noël ensemble. Parce que nous sommes unis autour de l'anniversaire de la naissance de notre Sauveur. Est-ce que nous sommes unis aujourd'hui ? Est-ce que nous voulons être unis, pas seulement dans la fête de Noël ? Mais dans d'autres choses aussi. Est-ce que lorsqu'il s'agit de servir Dieu, nous nous levons comme un seul homme ? Le deuxième point qui caractérise un peuple qui a une vision, c'est la compréhension, un peuple qui comprend. C'est non seulement un peuple qui écoute, mais un peuple qui comprend. Esdras apparaît là dans ce huitième chapitre, alors que depuis le début on ne nous parle que de Néhémie. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, en fait, ces deux livres d'Esdras et de Néhémie vont ensemble. Esdras a fait partie de la première vague qui est retournée à Jérusalem depuis Babylone, et Néhémie faisait partie de la deuxième vague. Mais Esdras, c'est le prêtre, c'est le grand prêtre. C'est lui qui est censé lire la parole. C'est son rôle. Il lit la Torah. La Torah... Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Lorsqu'il commence à lire ce livre, Esdras, lorsqu'il enchaîne les chapitres, les paragraphes, les pages et les pages et les pages, il est dit qu'il a commencé à l'aube et il a fini à midi. Il est un petit peu plus long que moi. Peu de choses près. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont tous restés là, dans une matinée entière ? Ça fait quoi ? 7 heures ? De 5 heures jusqu'à midi ? 7 heures d'affilée à écouter un prédicateur. Qui l'a déjà fait ? Personne ? Moi, je prêche 40 minutes, hein, vous êtes vraiment privilégiés. Hein. Il n'y en a aucun qui s'est endormi, apparemment. Il est fort quand même, Esdras. Est-ce que c'est lui seulement ? Alors, il faut savoir, ceux qui s'endorment dans le régime de Kim Jong-un, ils sont exécutés quasiment tout de suite. Hein. Faut pas s'endormir lors d'un discours du président, attention. Hein. Là, on a dans le peuple des adultes et des enfants, donc des familles entières, tous ceux qui sont en âge de comprendre, ils sont tous là et ils écoutent. Personne ne dit rien, personne ne s'en va, personne ne dort, personne apparemment ne pense à autre chose. Ils sont tous... à écouter ce qu'Esdras lit dans la Torah. Et c'est là toute la valeur de ce qui est en train de se passer. Il y a bien plus qu'un enseignement, il y a bien plus qu'une lecture de la loi, il y a aussi une transmission. Il y a une transmission du savoir, une transmission d'une part de foi. Esdras était accompagné de 13 lévites, ils sont tous nommés. Ils non seulement lisaient, mais aussi ils apportaient des explications. Et pas que la lecture de la Torah, il y avait aussi des explications. Et ils le faisaient de manière distincte, pour que tout le monde comprenne, et de façon claire. Il voulait que tous comprennent, que tous comprennent ce qui était écrit. Donc l'intention, elle était double. Non seulement il fallait respecter la tradition, puisque c'était une tradition, la fête de Rosh Hashanah, on lit la Torah, c'est une tradition. Donc il respectait la tradition, mais en plus, il voulait perpétuer cette tradition, il voulait l'enseigner pour que les autres après puissent le faire, que les générations suivantes puissent apporter eux aussi, comprendre l'importance de cette fête, et après il y en aurait d'autres qui se lèveraient pour lire encore la Torah. Et il voulait expliquer. On ne fait pas les choses par uniquement répétition, uniquement parce que les autres ont le fait, alors on va le faire nous aussi. Mais il voulait expliquer les choses pour que tout le monde comprenne bien. Pour notre église, c'est la même chose. On n'est pas un club de foot qui se réunit parce qu'on aime tous le foot. Nous ne sommes pas une salle de spectacle où il y a de temps en temps un bon orateur ou des bons musiciens qui jouent. Nous ne venons pas juste pour écouter. Nous ne sommes pas une dictature où nous venons ici contraints et forcés. Parce que si nous ne venons pas, nous risquons d'aller en prison. Nous venons librement. Nous venons sans contrainte. Nous venons parce que nous sommes un peuple qui partage la même identité. Nous sommes un peuple qui nous réunissons pour adorer et louer notre Père, parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes un peuple qui partage une même identité, qui a vécu la même chose et qui a reçu la même chose. Nous avons reçu une nouvelle identité en Christ. C'est ça qui nous rapproche. Nous venons ici parce que nous nous reconnaissons dans ce que Jésus a fait sur la croix. Nous venons ici parce que nous reconnaissons que nous avons parfois besoin de remettre notre vie en ordre avec Dieu. Parce que nous aimons Dieu. Parce que nous lui sommes reconnaissants. Parce que nous voulons lui dire des choses, nous voulons prier, nous voulons chanter, nous voulons le remercier. C'est pour ça que nous venons ici. Et tout cela est volontaire. En tout cas, j'espère qu'on ne vous a pas forcé à venir ce matin. Vous êtes libre, sans contrainte. Quel privilège de venir ici, sans avoir peur que quelqu'un rentre par la porte et nous dise « Vous n'avez pas le droit ». Nous avons le droit. Nous avons énormément de privilèges et nous n'en prenons pas la juste mesure. Lorsqu'Esdras a ouvert le livre, tout le peuple s'est levé. Tout le peuple a loué l'Éternel. Et tout le peuple s'est écrié « Amen ! Amen !» Ce n'était pas la fin d'une prière. C'était un « Amen » qui disait « Oui, je suis d'accord. J'acquiesce. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. » Lorsqu'on prononce une prière et qu'on dit « Amen » à la fin, si tout le monde dit « Amen », ça veut dire « Je suis d'accord avec ce que tu as prié ». C'est pareil ici. À la fin de la lecture de la Torah, tout le monde dit « Amen » parce qu'ils sont d'accord, ils ont compris ce qui a été dit et ils sont d'accord avec. C'est une réponse qui vient du cœur. C'est une réponse qui n'est pas forcée. C'est une réponse qui vient de toute la volonté de l'être humain. Et je me suis posé la question, à quand remonte la dernière fois où nous avons dit au Seigneur, « Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ce que tu dis dans la parole. » À quand remonte la dernière fois où notre « Amen » avait la vraie signification de ce que veut dire « Amen » ?« Je suis d'accord avec toi, Seigneur. » Parce que lorsqu'on dit ça, ça nécessite un petit examen de conscience. Si je suis d'accord, ça veut dire que ce que je fais doit être en accord avec ce que j'ai dit. Si je suis d'accord avec ce que la parole dit, ça veut dire qu'il faut que je m'y conforme. Je ne peux pas juste le dire. Ce n'est pas juste une parole en l'air. Ça doit s'accompagner d'actes concrets. Être d'accord avec Dieu, ça implique tout son être. ça implique une grande remise en question personnelle. Alors lorsqu'on entend la parole de Dieu, on peut avoir deux positions, deux phrases peut-être qui nous viennent à l'esprit. Et ça nous parle de repentance. Ça se discute ou c'est vrai? Imaginons, on lit un texte biblique et puis à la fin on se dit « ça se discute ». Ou alors on le lit et puis on dit « oui, c'est vrai, je suis d'accord ». Le fameux « ça se discute », c'est le fameux « oui, mais ». On est d'accord, mais. Ça, c'est les enfants rebelles qui disent ça à leurs parents, mais ça n'existe pas, des enfants rebelles. Jamais nos enfants nous disent « oui, mais ». Range ta console. « Oui, mais j'ai encore ma partie à finir. » Va faire tes devoirs. « Oui, mais j'ai pas fini ça. » Ça, enfin, je ne sais pas vous, mais nous, on l'entend régulièrement. Est-ce que c'est ce que les enfants de Dieu, rebelles, disent aussi à leur Créateur? Le fameux « oui, mais non ». « Oui, j'ai bien compris, mais non, je ne suis pas d'accord. » « Oui, je veux bien, mais non, ce n'est pas possible. » La repentance est quelque chose qui est très, très mal compris. On ne sait plus ce que c'est aujourd'hui que la repentance. Et pourtant, ça devrait faire partie de notre façon de vivre en tant que chrétien. Voilà comment le peuple d'Israël a réagi. Verset 9, tout le peuple se met à pleurer. Des larmes après la lecture d'un texte biblique. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'avoir des larmes après avoir lu un texte, avoir cette émotion qui monte? Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'ils ont entendu dans ce texte pour qu'ils se mettent à pleurer comme ça? C'était quoi le sujet? Il y avait quand même quelque chose d'important là pour qu'ils se mettent à pleurer tous ensemble. Alors je vais faire une supposition qu'ils ont entendu Deutéronome 29, versets 17 à 19. Et on va le lire ensemble. Deutéronome 29. « Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni clan, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait pas parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se félicite dans son cœur en disant « Je jouirai de la paix, même si je persévère dans les penchants de mon cœur, pour ajouter l'ivresse à la soif. » L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Au contraire, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous le ciel. Ouais, on a le droit de pleurer après ces paroles. Pourquoi on pleure à la lecture de ces paroles? Parce qu'on se rend compte que l'Éternel est capable d'exercer sa justice. Ça nous fait peur. Est-ce que c'est une partie de Dieu qui existe vraiment ou est-ce que ça doit être entièrement effacé de notre mémoire? C'est toujours écrit. Ça existe toujours, ces paroles. Dieu a voulu que nous en ayons connaissance. C'est la parole de Dieu. Ne prenons pas à la légère la parole de Dieu. C'est vrai, on pourrait dire, oui, mais il s'agit de l'Ancien Testament, maintenant nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Une excuse trop facile pour faire de Dieu un Dieu qui accepte les compromis. Je crois à un Dieu juste et saint. Je crois à un Dieu qui est pur et qui n'accepte pas le péché. Jésus est mort sur la croix pour que nous ne subissions pas la punition qui nous était réservée. Mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours cette punition. Elle était là et nous devons en prendre conscience pour comprendre la valeur du sacrifice de Jésus à la croix. Sinon, ça ne sert à rien que Jésus soit mort sur la croix. Nous avons besoin de comprendre la gravité de notre péché et à quel point Dieu peut être en colère et il a le droit d'être en colère à cause de notre péché, de ce que nous lui avons fait. Je pense qu'il faut faire attention à notre rapidité à comprendre les textes bibliques. Parfois, on a besoin de relire une fois, deux fois, trois fois. Parfois, on a besoin de demander des explications. La question à se poser est la suivante. Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que la Bible a autorité sur ma vie? Est-ce que ça fait quelque chose en moi? La Bible n'est pas qu'un ensemble de choses bonnes ou mauvaises, et à nous de faire le tri. La question, c'est de savoir, est-ce que ce passage-là influence ma vie? Et c'est là qu'on dit, avec conviction, c'est vrai. Amen. Je suis d'accord. Oui, Dieu, tu es un Dieu saint. Et tu as le droit d'être en colère avec des hommes qui te sont rebelles et qui ne veulent pas faire ce que tu leur demandes. Tu as le droit. Et c'est vrai, on peut se poser la question, quand est-ce la dernière fois que j'ai lu la Bible et que ça m'a profondément remis en question dans ma façon de faire, dans ma vie personnelle, dans les décisions que j'ai prises? À quand remonte la dernière fois où la parole de Dieu a eu une influence réelle sur ma vie? Je ne peux pas continuer sans vous citer le verset d'Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas juste le Nouveau Testament, on a aussi l'Ancien qui est compris dedans. La parole de Dieu entière est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Effectivement, tout dépend de notre motivation quand on aborde la parole de Dieu. Est-ce que nous ouvrons la parole de Dieu en nous disant « Tiens, je vais trouver une faille et je vais la contredire » Est-ce que nous ouvrons la parole en se disant « Je l'ai lu, je ne suis plus coupable, donc j'ai lu la parole, je la referme et je vaque à mes occupations » Est-ce que je lis la parole parce que je pense que Dieu va me punir si je ne le fais pas? Le peuple d'Israël, dans ce chapitre 8 de Néhémie, lorsqu'il était en train d'écouter Esdras, n'avait qu'une seule et unique motivation. Plaire à Dieu par la soumission. La soumission est toujours volontaire. Aucune contrainte. Le peuple voulait entendre la lecture de la Torah et il voulait s'y conformer. C'était sa motivation première avant même d'entendre la première parole du premier verset. Il voulait se conformer à ce qui allait être dit. Il voulait se laisser éduquer, se laisser transformer, être béni par la parole et apprendre toujours plus à connaître Dieu. Voilà la motivation du peuple d'Israël. Mon dernier point, c'est un peuple qui obéit. Avant d'obéir, il faut comprendre. Et pour ça, il faut écouter. Ça, c'est la logique normale. C'est ce qu'on apprend aux enfants. Et nous, on a encore du mal avec ça. Esdras et Néhémie étaient les dirigeants du peuple. Et heureusement qu'ils avaient ces dirigeants du peuple. Parce que leur premier réflexe, qui peut-être était légitime de pleurer, ça n'était pas ce que Dieu voulait. Et c'est là que Esdras, Néhémie, accompagné des autres Lévites, leur dit « Ne pleurez pas ! Arrêtez de pleurer, ça ne sert à rien, ne pleurez pas ! Stop ! Il faut faire la fête ! C'est la fête de Rosh Hashanah ! C'est une fête où on est heureux ! On ne pleure pas pendant une fête ! » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une fête, normalement, le principe même d'une fête, c'est de remplacer la tristesse par la joie. On va à une fête pour ça. On est triste, on va à une fête pour être heureux. Alors souvent, ce n'est pas avec les bons moyens. Parfois, c'est beaucoup manger et beaucoup boire qui nous rend heureux. Ce n'est pas forcément la bonne manière de faire. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on se réveille le matin, on retombe dans la tristesse. et dans d'autres choses éventuellement. En tout cas, les soucis sont toujours là après une fête. Quand les gens vont faire la fête, c'est pour oublier. Oublier les soucis, oublier les problèmes familiaux, oublier les problèmes d'argent, oublier l'avenir qui est incertain. Ça, c'est ce que nous connaissons. Mais quand le peuple de Dieu fait la fête, c'est pas pour oublier, c'est pour se souvenir. Pour se rappeler que Dieu est le créateur de toutes choses. Pour se rappeler de qui ils dépendent. Pour se rappeler qu'il est souverain sur leur vie. Pour nous, ce serait la fête de Noël pour affirmer, nous souvenir, mais affirmer que Jésus-Christ est vivant et qu'il intercède pour nous, toujours aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous voulons nous réunir pour faire la fête. Quand le peuple de Dieu fait la fête, il obéit. Parce que Dieu lui demande, alors il obéit. C'est le propre de la vie chrétienne, l'obéissance. On l'oublie souvent. On devrait être des modèles dans ce domaine de l'obéissance. L'obéissance arrive naturellement juste après que nos yeux aient séché leurs larmes de tristesse. En regardant de qui nous dépendons, en regardant la source de notre salut, les larmes de tristesse se changent en larmes de joie. Le peuple de Dieu sait comprendre et il sait aussi mettre en pratique. La mise en pratique des commandements nous met au travail. Il ne s'agit pas de nous lamenter sur notre sort, mais il s'agit d'aller de l'avant. Parfois, nous nous contentons de ce que nous connaissons de la Bible. Pourtant, la Bible est une source inépuisable. Il y a toujours, même avec un verset qu'on connaît par cœur et qu'on a entendu des centaines de fois, il y a toujours une manière de Dieu de nous faire apprendre des choses avec un verset. Il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur a à nous demander. Même si nous avons obéi à beaucoup de choses, il y a encore des choses que le Seigneur a à nous dire. Il y a encore des choses à faire pour lui dans son service. Pourquoi est-ce qu'on met en pratique la parole ? Parce que nous aimons notre Dieu. Parce que nous voulons le servir d'une manière volontaire, sincère, de tout notre cœur. Pour conclure, j'aimerais juste... Tu peux faire passer, Olivier, s'il te plaît, la prochaine slide. Pour conclure, je voudrais juste vous montrer cette photo-là. Cette photo, c'est la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. En Corée du Nord, si vous y allez, et on a eu un témoignage dernièrement qui nous l'a dit, la première chose que les douaniers vont vous demander, c'est « Est-ce que vous avez une Bible ?» Première chose, avant tout le reste, avant un ordinateur, avant de l'alcool, etc. « Est-ce que vous avez une Bible ?» Si vous dites oui, elle est confisquée immédiatement. Si des chrétiens sont pris en Corée du Nord avec une Bible dans la main, ils sont passibles de plusieurs années d'emprisonnement. C'est la loi. La plupart des croyants en Corée du Nord n'ont jamais vu une Bible papier. Certains la connaissent par cœur, c'est le seul moyen d'en avoir une. Mais en tout cas, s'ils sont pris avec une Bible, ils sont torturés et battus. Le gouvernement va même jusqu'à, dans les écoles, montrer une Bible aux enfants pour leur dire « Tu connais ça? Tu l'as déjà vu ?» Et s'ils disent oui, ils vont faire une fouille chez les parents. Plusieurs associations en ont fait leur cheval de bataille. Ils veulent, par tous les moyens, faire passer des Bibles en Corée du Nord. Par tous les moyens. Alors, il y en a qui viennent de Chine, il y en a qui viennent d'autres pays. Et ils essayent, avec des Bibles numériques, avec des émissions de radio, avec énormément de choses, de faire passer des Bibles en Corée du Nord. Et je me suis posé la question, pourquoi ce gouvernement coréen a aussi peur de ce livre-là ? Pourquoi ils veulent absolument l'éradiquer ? C'est incroyable ! Peut-être qu'ils ont mieux compris que nous l'importance de la parole de Dieu. Peut-être qu'ils ont mieux compris que c'était une puissance qui pouvait à tout jamais les détruire, les faire taire, anéantir tout leur pouvoir. Juste ce livre-là. La Bible, une fois lue, comprise, appliquée, elle change les vies. Et elle met à mal toutes les dictatures du monde entier. Elle est la bonne nouvelle du Sauveur qui nous assure un avenir certain et une assurance que personne ne peut ébranler. C'est ce qui fait peur aux dictatures et aux dictatures les plus puissantes de notre planète, qui sont capables de lutter contre toutes les puissances mondiales. Ça, ce livre-là leur fait peur. Mais pas à nous. Pas à nous. On n'a pas peur de ce livre. On l'a tous sur notre table de chevet, on en a plusieurs exemplaires dans nos armoires, on en a plein sur la table à l'entrée. Pourquoi ce livre ne nous fait pas peur? Pourquoi nous avons minimisé ce livre? Ma dernière question. Quand saurons-nous appliquer à nous-mêmes, étudier les Écritures, retirer des directions pour notre propre vie, pour notre vie personnelle, pour notre vie de couple, pour notre vie de famille et pour notre Église? On a vraiment besoin d'un retour à la parole de Dieu. Si vous avez des soucis dans ce domaine pour être assidu, j'ai des problèmes pour être assidu à la lecture de la parole de Dieu, je vous le confesse. Mais il y a des moyens, il y a des outils, il y a des choses qu'on peut faire. Et moi, je vous propose ensemble qu'à partir de début janvier, on se dise, comme challenge, on veut lire la Bible en entier pendant un an. Il y en a qui le lisent en 2 ans, il y en a qui lisent plusieurs fois la Bible en 1 an. Mais pour ceux qui auraient des soucis dans ce domaine-là, moi je suis prêt à relever le défi avec plusieurs. Lisons la Bible tous les jours et finissons-la le 31 décembre 2019. Et voyons ce que ça change dans nos vies personnelles, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille et dans notre Église. Je vais juste prier pour terminer. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi. Encore une fois, nous élevons nos voix vers toi, comme un peuple uni qui a besoin de ta parole, qui a besoin d'être renouvelé, qui a besoin d'être repris et qui veut t'obéir. Seigneur, aide-nous à cela. Nous avons tellement, tellement de choses qui nous empêchent de le faire, tellement de choses qui nous dévient notre attention de ta parole. Tellement d'emplois du temps, tellement chargés que nous ne trouvons même pas quelques minutes pour la lire. Seigneur, aide-nous, nous avons besoin de placer ta parole en priorité dans nos vies. Mais Seigneur, nous avons besoin d'une énorme remise en question pour cela. Alors je te prie, Seigneur, guide-nous, enseigne-nous, rends-nous sensibles, Seigneur, à ce qui nous empêche de lire ta parole tous les jours. C'est en ton nom que je t'ai prié pour ta gloire. Amen.